Will et de Sean Dogg pour former Cypress Hill par la suite. Et sur cet album, eh bien, il y a beaucoup de featuring. Je vous le conseille, une ambiance assez sombre dans l'esprit du Wu-Tang justement. Donc, outre les deux que je vous ai cités, il y a également des morceaux avec Dr. Dre, avec Beryl bien évidemment de Cypress, mais également MC Hyte, KRS-One, Mobb Deep, Infamous Mob. Vraiment du très très lourd. Et pour finir, un petit titre avec Wyclef Jean qui n'est pas non plus dégueulasse.
Voilà, non mais une belle bande de copains.
Yes.
Qui se réunissent. Et ben voilà.
Et ben, c'est l'heure.
C'est là que se termine.
C'est l'heure de se quitter. Et ouais,
déjà.
Effectivement, déjà, oui, ça passe très vite.
Et ben, on se dit dans deux semaines, du coup.
Exactement.
C'était bien plaisant.
Voilà.
Bonne soirée à tous.
Allez, ciao. Bye bye.
Bisous.
Bye.
Bisous. Ciao. And the word and spread it through all the southern states. Activate self-destruct, elimination is imminent. Stabilize your positions, the spirit of God is infinite. Women and children take shelter, the enemy is upon us. All personnel, man your battle stations. Code red, the murderer.
I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out. Into outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan. On an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Peace.
Radio G. www.radio-g.fr.
Il est tout juste 20h05 et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 101.5 FM de Radio G. On est ravis d'être avec vous pendant une heure pour parler de sport angevin, de sport international. Vous en avez l'habitude donc chaque mardi à 20h, c'est donc votre moment sport de Radio G avec moi, Cédric. Équipe réduite aujourd'hui, Cédric, puisqu'on n'est que deux.
Ouais.
Donc voilà, on a eu un forfait pour cause de maladie.
Ouais, la maladie is coming, ça y est.
Exactement, le début des jours un peu frais.
Ouais. La pluie est revenue.
L'hécatombe de l'équipe de France touche aussi apparemment l'équipe de Génération Sport. Donc,
voilà. Bizarrement, c'est à moins de 18 ans aussi.
Oui, voilà, c'est assez bizarre, mais bref. Donc voilà, on est ensemble pendant à peu près une heure, hein, jusqu'à 21h pour parler de sport local notamment avec les actus. Et puis aujourd'hui, c'est une première émission qui se fait en partenariat avec l'UFAB 49. L'UFAB qui va donc démarrer sa préparation ce soir. Alors elle a sûrement déjà commencé puisque le match était à 19h à La Roche-sur-Yon. Et donc voilà, l'UFAB qui va commencer sa saison dans à peu près un mois. Et on est allé à la rencontre de Aurélie Bonan, la nouvelle coach de l'UFAB. Et elle nous a un peu parlé de toutes ses ambitions pour cette année et de son arrivée au sein du club. Donc voilà, ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis voilà, on la diffusera. Donc elle a été, je rappelle, donc elle a été un peu enregistrée. Donc c'était hier. Voilà, dans l'après-midi. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie d'émission. Et puis, bah, sans plus tarder, on va commencer avec les actualités locales. On commence par le handball et le SCO qui est toujours invaincu depuis le début du championnat de National 1 Elite. Ce début de saison permet au club angevin d'être optimiste, évidemment, pour une remontée immédiate en Pro League. Ce week-end, c'est l'élite valdoise qui a subi la loi des Angevins à la salle du Hara. C'est en deuxième mi-temps que les Noirs et Blancs ont fait la différence pour prendre le meilleur sur les Franciliens et s'imposer finalement 36-31. La première place du classement est toujours la propriété de la réserve du Paris Saint-Germain, mais les Angevins suivent tout juste derrière avec donc 3 victoires et 1 nul. Lors du prochain match, l'adversité va augmenter avec un déplacement à Annecy, 4e championnat. À voir si les hommes d'Issam-Tej sont prêts à relever le défi.
Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer sur un petit point technique du règlement. La réserve du PSG peut monter ou pas ?
Je crois pas.
Ouais, généralement c'est comme dans les autres sports. La,
ouais, je
la
crois
réserve
pas.
En cas de peut ouais. avoir le titre de champion,
oui,
mais ne pourra pas monter.
Ouais, voilà. En fait, faut savoir aussi que donc le championnat national 1, il est divisé en 4 poules et donc en fait il y a une poule qui est plus haute que les autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, t'as une poule plus ou moins relevée.
C'est ça.
En termes de niveau.
En gros, ça s'appelle la National 1 Elite. Et je pense que c'est vraiment, du coup, l'antichambre de la Pro League, donc la deuxième division. Et que les trois autres poules, parce que les trois autres poules, en fait, elles sont réparties géographiquement. Alors que la première, pas du tout. C'est vraiment des clubs de toute la France. Donc voilà, je pense que c'est vraiment N1 Elite, c'est vraiment celle qui permet d'aller en Pro League.
D'accord.
Donc voilà. Et je pense pas effectivement que Paris Saint-Germain, enfin l'équipe réserve, soit en capacité de monter en Pro League.
En tout cas, voilà, je pense que quand on manage une équipe comme ça, du coup, c'est à prendre en compte, je pense, pour l'entraîneur du SCO, voilà.
Il y a une place qui se libère.
Il y a sûrement une place, voilà, qui peut se libérer facilement, entre parenthèses, mais En tout cas, voilà, oui, même pour nos auditeurs qui pourraient s'étonner au cours de la saison, par exemple, voilà, il y a un grand écart qui se creuse, ça sera pas forcément signe négatif non plus.
Le Paris Saint-Germain bat d'ailleurs les A qui ont perdu pour la première fois depuis 35 matchs en championnat, donc c'était ce week-end contre Toulouse. Donc voilà. Pour être complet sur le handball. On va passer au basket. Donc voilà, comme on l'a dit, pour connaître toute l'actualité de l'UFAB, rendez-vous tout à l'heure pour l'interview de la coach Aurélie Bonan. Pour le AB, c'était ce week-end le début de la Leaders Cup, une compétition parallèle à la Pro B qui pourrait permettre à Angers de se qualifier pour les playoffs de fin de saison. Alors c'est aussi quelque chose d'encore plus compliqué que le hand, parce que là c'est vraiment une compétition donc qui est parallèle avec des poules, avec une phase finale qui va se dérouler en février. Le gagnant peut se qualifier pour les playoffs, mais d'un autre côté, si le gagnant est déjà qualifié pour les playoffs en championnat, du coup ça compte pas, donc c'est assez compliqué comme compétition. En tout cas voilà, les Angevins ont réussi leur entrée en matière contre Orléans avec une victoire 84-77. La prochaine journée d'ailleurs se joue ce soir du côté d'Evreux pour les hommes d'Ali Bouziane. Par contre, du coup, en Coupe de France, la tâche a été plus compliquée du côté de Toulouse, puisque ce sont les Toulousains qui l'ont emporté 98-91. C'est donc une fin de parcours pour l'étoile en Coupe de France, mais qui reste donc en lice pour la Leaders Cup. Et puis pour le démarrage de la Pro B, ça devrait être fin du mois d'octobre, je pense. Du côté des Loups d'Angers, leur premier match de la saison s'est soldé par une première victoire assez facile, 3-0 contre Torigné-Fouillard. Quant au Duc, la saison ne commence pas aussi bien qu'espéré avec seulement 2 victoires pour 2 défaites en prolongation. À noter que les Ducs n'ont d'ailleurs toujours pas gagné à l'Ice Park en championnat depuis le début de la saison. Voilà, donc c'est pas non plus inquiétant parce que ce sont quand même 2 défaites en prolongation. Donc je crois qu'on marque des points quand même.
C'est un petit peu inquiétant au sens où on a déjà une défense qui est décimée en fait.
D'accord. Okay.
Soit pour raison de blessure, soit pour suspension. Pour au moins, je crois, 2 matchs.
Ok.
Donc, oui, en soi, bon, ça reste le début de saison, mais c'est vrai qu'on aurait préféré un début de saison un peu plus tonitruant, histoire de prendre des points d'avance. Mais bon, ça peut aller tellement vite que pour l'instant, oui, il n'y a pas d'alerte notoire.
Voilà.
Après, voilà, c'est vrai que c'est des.
Faut encore.
On a joué quand même déjà une grosse équipe.
Oui.
Là, Bordeaux, je pense que forcément, ils ont aussi encore en travers la demi-finale de Coupe de France, hein, forcément. Donc, tu reviens avec ça en début de saison, t'as forcément envie de faire un exploit, quoi.
Bien sûr. Et donc voilà, donc 2 défaites en prolongation pour les Angevins qui sont quand même 4e potentiellement de Ligue Magnus. Le prochain match, je crois que c'est ce week-end.
C'est dimanche à domicile.
Il n'y a pas de match aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est à la fin de semaine. Et les hockeyeurs angevins qui se préparent également à disputer la Continental Cup. Ce sera le week-end du 14 au 16 octobre à la Ice Park. Il y aura donc les Hongrois de Ferencváros, les Croates de Sisak et les Roumains de Miercurea-Ciuc. Par rapport à ça, donc c'est le début d'une aventure européenne pour Angers. Comment toi tu sens ça? Ça va être compliqué? Ça va être faisable?
Je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout le niveau européen.
Parce qu'il me semble que Grenoble a déjà joué la Ligue des Champions, je crois que c'était en début de saison. Alors, j'avais vu ça et tout, mais ça doit être une autre compétition, je crois.
Il y a deux Coupes d'Europe
aussi. Ouais, c'est ça, donc ça doit être la deuxième. Et donc, ce sera le week-end. Ce serait que c'est assez intéressant d'avoir toute une phase de poule sur un seul week-end.
C'est ça, ouais,
par contre, plus, à Angers.
En termes de qualité de match, on pourra voir... Voilà.
Et sur Angers,
du beau match. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu forcément de tarifs pour les places. Je sais pas si ça va être un peu comme pour les Coupes du Monde. Quand on a eu la Coupe du Monde féminine, si ça va être au match ou par pack.
Parce que le tirage au sort, enfin, en tout cas, la révélation totale de la poule, ça a été fait récemment.
Hein, ça a été fait il y a 2-3 jours, fin de semaine dernière, où on a connu le dernier adversaire qui manquait. Ouais.
Et du coup, donc, ce sera dans 2 semaines. Deux, trois semaines.
Ça va arriver très vite. Ouais.
Et donc, voilà, ce sera une étape de plus hein, pour les Angevins. ça va être très intéressant à suivre. Hein.
Ouais, non, mais ça va faire une belle fête du sport.
Ouais, et puis sur Angers, donc ouais, c'est.
Bah, on aura la chance d'avoir deux coupes d'Europe cette année, entre le basket et le hockey.
Exactement. Donc, ça va être assez intéressant, le retour du sport européen à Angers. Voilà, je vais repartir sur du basket local puisque j'ai un petit peu oublié ça, mais ça, c'est à souligner. Cholet qui a commencé le championnat de Betclic Elite par une victoire assez rocambolesque, contre l'ASVEL, le triple champion de France en titre. Voilà, Cholet qui a créé l'exploit en s'imposant dès la première journée à la Meybray, donc 91-89 face aux Lyonnais. C'était aussi le retour de Nando De Colo dans son club formateur. Nando De Colo qui évolue donc maintenant à l'ASVEL. Et donc voilà, une équipe vraiment impressionnante, hein, du côté de l'ASVEL, on le sait, triple champion de France, et puis qui a bien recruté pour être dans les premiers rôles en Euroleague cette saison. Et donc là, voilà, il chute dès le premier match contre une grosse équipe de Cholet. Et je crois avoir vu des images, la salle était vraiment en feu. Hein. C'était vraiment, on parlait de l'ambiance la semaine dernière dans les stades du Maine-et-Loire, et là, c'était assez impressionnant. Et donc voilà, 20 points notamment pour Dominique Artis du côté des Maugeois. Et donc ça commence plutôt bien pour Cholet.
L'ASVEL, c'était plutôt une équipe type, mais impactée avec certains joueurs qui étaient en équipe de France ou du coup une équipe B.
Moi je pense que c'était quand même une bonne équipe parce qu'il y avait, comme j'ai dit, les recrues dans notre Decolo, Geoffrey Lauvergne aussi qui est un international français. Il y avait Yacouba Fall qui était présent, je vois donc la feuille de match. Et non, je pense que c'était quand même une bonne équipe.
Ouais,
mais voilà, donc c'était aussi un gros match de la part des Choletais qui ont su faire le job dès le premier match de la saison.
Après, si ça vaut mieux aller jouer un gros dès le début, au moins. Ouais.
Voilà, on est
sait qu'il n'y a pas de regrets généralement.
C'est ça. Exactement. Donc voilà, on va passer sur l'international avec justement le basket. On va y revenir, même quand il n'y a pas Faustin. Voilà, on y revient toujours. Après l'échec en finale d'Eurobasket des masculins, l'équipe de France féminine se rendait à Sydney pour les championnats du monde dans une poule de 6. Les Bleus ont terminé ce matin même cette phase de poule avec 3 victoires contre l'Australie, le Japon et le Mali. Et 2 défaites contre le Canada et la Serbie. Donc aujourd'hui, ces résultats leur permettent d'être 3e et elles affronteront donc la Chine. Elles risquaient d'affronter notamment
les États-Unis.
Donc ça aurait été compliqué évidemment en quart de finale. Mais en tout cas voilà, elles se qualifient donc elles joueront contre la Chine. Ce sera jeudi, dans 2 jours à 10h heure française. Donc voilà, ça aurait pu être à 4h si on avait terminé 4e. Donc c'est tant mieux. Donc voilà, à 10h donc contre la Chine, quart de finale de championnat du monde. Chine qui est quand même une grosse équipe, hein,
c'est ce que j'allais dire, on n'est pas forcément senti comme favori sur ce match là
voilà. Et puis donc on verra ça, et puis sûrement Faustin qui nous en touchera 2 mots quand il sera de retour. Donc, et puis un autre mot que je voulais dire quand même par rapport au Mali notamment dans ce mondial. On a reçu Toti Gandega, c'était à peu près il y a un an.
C'était
notre premier invité du FAB. Donc déjà à l'époque, on avait été, c'était assez, comment dire, parce que c'était marrant. C'était assez insolite le fait que on l'a donc interviewé le mardi, que le dimanche, elle faisait ses valises pour aller du côté de Nantes. Mmh. Donc ça, c'était une anecdote assez marrante. Et alors du coup, j'ai oublié de demander ça à Aurélie Bonan, ne serait-ce qu'en off, pour savoir, parce que elle a été sa coach du coup juste après. Donc de savoir, et puis comme voilà, il y avait peut-être moyen de savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle était partie, etc., etc. Donc voilà, et surtout, donc ce n'est pas tout par rapport à Toti Gandega, puisque elle a été aussi impliquée, non pas forcément, mais en tout cas son équipe du Mali. Je sais pas si t'as vu ça, Cédric, sur les réseaux.
C'est un petit peu hallucinant la scène.
Scène est un peu folle.
On va peut-être l'expliquer justement pour les gens qui ne l'auraient pas vu.
C'est ça. Fin du match entre la Serbie et le Mali. Alors le Mali qui malheureusement a perdu ses 5 matchs. Bref, donc fin du match, il y a une joueuse serbe qui est en interview, et à côté, à quelques mètres d'elle, il y a les joueuses maliennes qui se tapent entre elles, et on voit justement Tutti qui essaie de séparer les deux joueuses qui sont en train de se bagarrer. Et donc voilà, c'est assez triste, et sur Twitter notamment, elle s'est excusée au nom du basket malien et même africain, parce que voilà, c'était une des seules nations représentantes, hein, elle remplaçait notamment le Nigeria, d'autres des Rachidom qu'on a aussi reçu. Mais bref, en tout cas voilà, cette histoire qui est un petit peu triste, parce que voilà, le Mali qui essaie de faire de son mieux dans ce mondial.
Et puis qu'on sait déjà qu'il est en délicatesse avec sa fédération depuis des années.
Bien sûr.
Donc les joueuses souvent ont du mal à les jouer, parce que soit par conviction, simplement elles refusent d'aller dans l'équipe.
Il y avait des
primes
qui n'avaient
pas été payées. Voilà, il y a eu ça entre autres.
Et Tutti Gondega avait refusé de jouer à un afro-basket, et puis elle avait fait son retour pour la qualif pour les championnats du monde. Donc voilà, c'est assez dommage.
Mais on en sait un petit peu plus sur l'origine de cette bagarre, ou?
Alors, donc, justement.
Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, oui, en fait, c'était un souci avec la joueuse serbe.
Ah ouais?
D'autres qui disent, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux.
Ok.
D'autres qui disent, en fait, c'est juste une histoire entre elles, en fait, qui s'est passée. Mais c'est vrai que la proximité du lieu où ça se passe pose des questions.
Peut-être. Après, elles ont l'air quand même de s'envoyer des points. Parce que du coup, justement, Tutti Gondega s'expliquait. Alors, je vais lire un peu. Elle a dit je tiens à préciser que ce n'est pas l'image que nous voulions véhiculer, vraiment pas. Dieu sait qu'on s'entend bien. Et là, c'est un dérapage malheureusement qu'on aurait voulu éviter. Nous tenons à nous excuser auprès du peuple malien et au peuple africain. Et elle a répondu juste en dessous un truc par rapport justement à notamment celle qui était impliquée. Elle dit: je sais que c'est une dinguerie ce qui s'est passé, mais les petites regrettent profondément leur comportement. Donc voilà, je sais peut-être que c'est des jeunes joueuses par rapport à ça. Sinon la FIBA, je suis en train de lire un peu en même temps, mais en tout cas voilà, la FIBA reconnaît qu'il y a une altercation entre joueuses maliennes en zone mixte à la suite de cet incident. À la suite de cet incident, elle a ouvert une enquête. La FIBA décidera de prendre toute mesure disciplinaire éventuelle une fois qu'elle sera terminée. Donc voilà.
Ah ouais, donc on attend de voir.
Voilà, c'est.
Et de connaître un petit peu l'origine, quoi.
On n'a pas le nom des joueuses impliquées. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pas Tutti. Alors Tutti, on la voit vraiment.
Ah, oui,
se
oui,
démène pour essayer de. Tu l'as reconnu toi aussi sur la vidéo.
On la reconnaît, voilà.
Avec
du coup,
son bandeau. On la voit qui se démène pour essayer de séparer, hein. Mais voilà. Ah bah si, du coup j'ai le nom, c'est Salimatu notamment Kuruma. Donc voilà, c'est une des deux joueuses qui est impliquée là-dedans. Et puis c'est vrai que c'est une scène assez loufoque. Hein.
Bah oui, ça arrive dans les vestiaires, j'ai envie de dire,
c'est commun. Bah,
c'est commun, peut-être, voilà, c'est presque le lieu, on va dire, où ça doit se passer quelque part. En zone mix d'interview, c'est étonnant, quoi.
Donc voilà, par rapport à Tutti Gondega, qui, si elle nous écoute, on passe évidemment le bonjour. On a toujours son maillot d'ailleurs, qu'on a fait
toujours
la dernière. Donc voilà, pour le basket, donc pour l'équipe de France, rendez-vous jeudi 10h. Alors ce sera pas tout de suite en clair, je crois que c'est sur beIN Sport.
Alors, on est sur un quart du coup.
Ouais, donc c'est les
donc,
demi.
Donc ce sera les demi qui peut être potentiellement
c'est ça.
Diffusé. Ouais.
Donc voilà. On va basculer sur le football maintenant avec évidemment, c'était un rassemblement d'équipe de France. Premier match plutôt satisfaisant, c'était jeudi contre l'Autriche. Alors adversaire évidemment un peu plus faible, mais moi j'ai trouvé, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses Cédric, que c'était plutôt rassurant. Que voilà, il n'y a pas eu forcément de joueur qui a été en dessous. C'était un match sérieux. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce premier match? On parlera du Danemark après, mais.
Alors, le match de jeudi, je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu?
Je ne l'ai pas vu, mais. Vu le. Enfin. La grande envie que j'avais de suivre cette compétition.
C'est vrai que tu n'aimes pas trop Alex.
Mais. Non, ouais, il y a eu du mieux, ce que j'ai pu voir un petit peu. Bon, quand même, je tiens vite fait un coup d'œil pour voir un peu, mais bon, ça reste quand même poussif. Il y avait des choses intéressantes, je pense, sur le terrain quand même, hein, ne serait-ce que, voilà, pour le gardien, on a quand même une confirmation, c'est que la relève, elle est là, je pense. Hein.
Ouais.
Elle est.
Avec Maignan.
Maignan survient là-dessus.
Ouais.
Donc ça c'est plutôt positif, j'ai envie de dire, pour le groupe. Logiquement, voilà, je pense qu'on a notre trio pour la Coupe du Monde en termes de gardien.
Ouais.
sauf blessure bien sûr, mais donc là-dessus au moins on a un chantier peut-être de moins, mais après la défense ça reste encore compliqué. L'attaque, bon, on a vu mieux.
Ouais, c'est vrai. Bah après, premier match, le Mbappé a été très bon. Beaucoup parlent de également de Giroud. Griezmann, c'est bon, c'est un peu compliqué, mais ça allait sur ce match.
Quand t'as pas assez de temps de jeu, je pense que ça va être ça le souci pour Griezmann. Hein. Soit ça va le servir et en Coupe du Monde, il sera frais comparé aux autres. Ou soit il va être en manque de temps de jeu et là ça va être plus compliqué. Donc c'est tout l'un tout l'autre là-dessus.
Donc voilà pour le premier match. Le deuxième match était beaucoup plus compliqué. Là pour le coup, pas forcément de Français à sortir du lot. Défaite 2-0 contre le Danemark avec les buts de Dolberg et Skov Olsen. Voilà, une équipe qui avait été un peu remaniée. Pavard qui avait
encore, encore des blessés.
Encore évidemment des blessés, puisque Maignan était blessé, voilà. Koundé était blessé.
On est rendu à 15 ou 16 blessés. Enfin, on a le record d'Europe des blessures.
Et le pire, c'est ce qui était prévu. Avec l'enchaînement des calendriers, avec une Coupe du Monde en février, en novembre-décembre. On pouvait, enfin, c'était prévisible, autant de blessés à l'enchaînement des matchs, une saison qui commence début août, enfin, c'était à prévoir et ça se passe actuellement, en tout cas pour l'équipe de France. À voir. Alors, pour la plupart, c'est quand même des blessures dont ils vont s'en remettre. Il n'y a pas encore de forfait sûr à 100% pour la Coupe du Monde, à part peut-être Camara et Pogba.
Tout le monde est sélectionnable, même si pour certains, on sait que c'est quasiment improbable.
Camara, Pogba.
Pogba, voilà, c'est sûr.
Mais pour les autres, voilà, ça devrait être début octobre pour la plupart au niveau de l'équipe de France. Et donc voilà, défaite 2-0 avec un moins bon visage. Mais en tout cas, l'équipe de France est maintenue en Liga. C'est l'Autriche qui va donc descendre au niveau de la Ligue B, notamment. Et puis sur les autres résultats, déjà, on peut parler des matchs ce soir avec un très alléchant Portugal-Espagne dans la Liga. Donc c'est pour la victoire de la poule et donc la qualification pour le Final Four. Donc voilà.
L'Italie qui s'est qualifiée.
L'Italie qui s'est qualifiée également.
Qui pourrait aller rechercher son titre, du coup.
Dans le groupe de la France, c'est la Croatie, je crois. Et puis, par contre, l'Angleterre, je sais pas si t'as vu ça, qui descend en Ligue B. Après, donc, c'est très mauvais résultat en juin contre notamment la Hongrie.
C'est souvent le football anglais a des cycles.
Et là, c'est un petit coup de moins bien.
Mais bon, enfin, j'ai envie de dire, ce qu'on a vu sur le match de l'équipe de France, c'était quelque part. Prévisible qu'on ait un match comme ça tôt ou tard.
Ouais.
Parce que, depuis toutes ces années, la politique de Deschamps vis-à-vis des sélections, moi je ne l'ai jamais compris, mais là, on a vu le fait de mettre des jeunes joueurs qui n'ont quasiment jamais goûté à l'équipe de France, il n'y avait aucun patron pour les diriger.
Oui.
Donc c'est bien d'appeler toujours les mêmes, même sur des matchs amicaux, mais il est peut-être temps de changer un peu de politique là-dessus et de laisser place aussi aux jeunes pour qu'ils puissent se former. Hein. Ça vaut mieux perdre un match amicaux que de le gagner 10-0, j'ai envie de dire. En termes d'enseignement, ce sera beaucoup plus intéressant. Quoi.
Et donc voilà, la Coupe du Monde qui se profile, hein, c'était le dernier match avant la Coupe du Monde. Voilà, alors on verra, comme on a dit, si on traite ça, je pense qu'on pourra la traiter en tout temps. Voilà, on va, de toute façon, vous comptez sur nous, chers auditeurs, pour ne pas aller dans le sens du Qatar, évidemment, mais en tout cas voilà, on parlera de football, je pense que c'est aussi important.
On sait qu'il y a déjà eu des appels
au boycott
et aussi à la réaction, parce que c'est vrai que la fédération française, par rapport à ça, c'est un peu quoi, il se passe quoi, nous on sait pas, enfin on dit rien,
on fait la sourde oreille.
Voilà,
clairement.
C'est vrai que Noël en ce moment il a beaucoup de soucis, hein.
Il est en difficulté, on va dire. Donc on verra ça, donc voilà, on aura le temps évidemment de faire pas mal de missions par rapport à ce sujet, parce que ça prendra pas mal d'attention dans le
petit événement
les médias.
Aussi rocambolesque pour les U18 aussi.
Ah oui, tu peux raconter cette histoire qui est assez folle aussi. Ouais.
Qui se sont fait disqualifier en plein match parce qu'ils se sont pris quatre rouges.
4-14.
Et du coup, c'est victoire sur tapis vert directement.
C'était contre la Pologne.
Ouais, contre la Pologne. C'est un peu étonnant.
Ouais.
Que voilà, enfin, je veux bien.
Et en plus,
c'est des jeunes.
Je sais pas si t'as vu le dernier carton rouge. Parce qu'il y a, en fait, il y a déjà trois cartons rouges.
Ouais,
et après, il y a l'autre. Il découpe un joueur vraiment et tacle des pieds décollés sur un Polonais. Il fait le vraiment genre il flambe un peu et puis derrière il va remettre un coup de tête au mec qui s'attaque.
Non,
donc,
c'est...
Voilà, ça a pas fait, ça a fait aussi pas mal de débats sur les réseaux sociaux.
Pour que ce genre d'action arrive, c'est ça aurait pu être sûrement être repéré largement avant.
Ouais.
Et je pense que là, oui, il va avoir un gros travail d'éducateur au sein du groupe. Alors, c'est pas tous les joueurs qui sont coupables. Mais...
Je crois que Bernard Diomède, donc le coach, a dit qu'il y en a qui c'était fini pour les. Notamment celui qui a pris quatrième, c'était assez assez fou.
Mais voilà, enfin, dans ce week-end de l'équipe de France,
voilà,
on aurait préféré avoir de meilleures nouvelles. Quoi.
Les espoirs, ça s'est bien passé quand même.
Ouais, les espoirs,
une victoire contre l'Allemagne, puis un nul contre la Belgique, c'était bien. Les espoirs sont souvent intéressants à regarder. Je vois que le temps file, effectivement. Il est déjà 20h30. Petit mot juste vite fait de cyclisme avec, donc, c'était championnat du monde. C'était en Australie. Et, il s'appelle Marc, c'est ça? Evenepoel,
Belge.
Qui a été champion du monde. Qui a donc succédé à Julian Alaphilippe. La deuxième place quand même pour Christophe Laporte, c'est ça
Ouais, je crois. Ouais.
Christophe
en tout
Laporte.
Cas, une bonne tactique de l'équipe de France.
Troisième podium en trois ans pour l'équipe de France, ce qui est quand même assez remarquable. Et donc voilà, puis voilà, effectivement, Alaphilippe qui lâche son maillot, mais c'était déjà deux exploits de l'avoir eu.
Ouais, c'est pas souvent d'enchaîner.
C'est vraiment assez rare, et pour le coup, la troisième a été vraiment assez incroyable, surtout qu'il a connu une saison.
C'est ça, avec ses blessures et tout, ça a été compliqué.
Donc voilà pour le cyclisme et toute l'actualité, évidemment. On va tout de suite passer à une pause musicale, et après on enchaînera tout de suite avec l'interview d'Aurélie Bonan. On va s'écouter The Weeknd et le titre Save Your Tears.
I don't know why I run away.
retour dans Génération Sport pour la suite et fin de votre émission. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de l'UFAB, notamment avec Aurélie Bonan. On a fait donc une interview, c'était hier, donc voilà, parce que évidemment elle n'était pas disponible étant donné qu'il y avait un match ce soir contre La Roche. D'ailleurs, on essaiera de vous donner des résultats hein, si on peut les avoir.
J'ai essayé de regarder. Vas-y. Pour l'instant, j'ai rien trouvé, mais bon.
Bon, voilà. En tout cas, on verra comment ça se passe par rapport à ça. En tout cas, voilà. Donc, interview réalisée hier. Je vais vous faire une petite présentation de Aurélie Bonan, de son parcours de joueuse et aussi de coach. La carrière de basketteuse professionnelle d'Aurélie Bonan a commencé en 1998 du côté de Tarbes. 4 ans après ses débuts en LFB, direction Bordeaux pour 1 an, avant de rejoindre Mondeville pour 3 ans. C'est d'ailleurs dans le club normand qu'Aurélie Bonan va connaître ses premières capes en bleu. En 2006, elle tente une expérience étrangère à Salamanque, mais ne disputera finalement pas la saison avec le club espagnol et fait son retour dans son club formateur Tarbes. Ensuite, elle continuera à jouer les premiers rôles dans le championnat de France, Latte Montpellier, de nouveau Mondeville, Nantes, Charleville-Mézières ou encore Nantes de nouveau, et enfin Basketland. C'est d'ailleurs dans le club de Mont-de-Marsan qu'elle termine sa carrière professionnelle lors de l'exercice 2015-2016. Elle commence alors sa transition de coach par une première courte expérience d'assistante à Latte Montpellier. C'est en 2020 qu'elle retrouve un banc à Nantes, dont elle prendra en charge l'équipe première pour la saison 2020-2021, puis 2021-2022. La saison dernière s'est mal passée pour les déferlantes, qui ont été reléguées en National 1. Ce qui n'a pas empêché donc Aurélie Bonan de rebondir du côté d'Angers, après le départ inattendu d'David Gauthier, attiré par un nouveau challenge à l'ASVEL. Elle est également donc adjointe de Julie Barène à la sélection des pays. Depuis 2021. Dans cette interview, vous en saurez donc plus sur son arrivée en Anjou, le projet de jeu qu'elle souhaite déployer et la préparation qui arrive avec justement un match amical contre La Roche, donc comme on l'a dit, au moment où l'on parle. On va vous laisser donc avec la suite de l'interview. On espère qu'il n'y aura pas trop de bugs techniques. Et puis bah voilà, on se retrouve juste après ça. Donc on est avec Aurélie Bonan. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Première question toute simple pour mettre directement dans le sujet. Comment se passe la préparation au niveau des matchs qui vont arriver? Est-ce qu'il y en a de prévus? Est-ce que ça a déjà commencé? Comment ça se passe?
Bah, la préparation se passe en plusieurs temps puisqu'on a des joueuses qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Voilà, comme je pense beaucoup d'équipes, on pianote aussi avec les pépins de début de saison, mais globalement le groupe travaille bien, les joueuses qui sont présentes travaillent bien, on monte en puissance physiquement. Basketement parlant, forcément on est coach, donc on aimerait toujours que ça aille plus vite, mais voilà, on est plutôt content, un groupe qui a envie de travailler, qui travaille plutôt bien. Voilà, et puis les matchs amicaux, on commence enfin notre série de matchs amicaux. On devait en avoir un samedi qui malheureusement a été annulé, donc du coup on commence demain soir à La Roche-sur-Yon.
Pour ton arrivée à l'UFAB, comment tu as été approché justement par le club?
Bah, tout simplement en fait, l'ancien entraîneur a eu une proposition pour évoluer ailleurs. Le club a décidé de le laisser partir dans ce projet exceptionnel pour lui, et voilà, tout simplement on s'est contacté avec le président du club pour échanger, et le feeling est plutôt passé rapidement, et voilà, la décision s'est prise assez simplement et rapidement.
Et du coup voilà, il n'y a pas eu de temps de réflexion parce que ça a été un peu imprévu justement ce changement de coach. Toi t'as pas hésité longtemps avant de prendre ta décision?
Si, j'ai hésité parce que je m'étais déjà engagé dans un autre projet qui n'était pas dans le sport pro, donc déjà par responsabilité par rapport à mes ex-futurs employeurs, il y avait des discussions à avoir. Il y a eu forcément aussi appréhender un petit peu l'environnement avant de prendre la décision, donc les échanges avec l'ancien entraîneur, avec les joueuses que je pouvais déjà connaître, et bon, j'ai de la chance d'avoir vécu à Nantes très longtemps, donc je connais bien le coin, je connaissais quand même bien le club puisque je suis venu régulièrement voir des matchs, et puis aussi forcément les échanges avec Maxime qui lui est l'assistant emblématique du club, donc voir si on pouvait matcher, si ça pouvait fonctionner aussi entre nous, parce que c'est un binôme très important pour l'entraîneur, c'est le plus important pour un entraîneur d'avoir ce duo qui fonctionne, donc voilà, à partir du moment où tous ces critères étaient associés, remplis, j'ai décidé de prendre la décision de relever ce défi.
Et du coup, tu disais tu connaissais déjà un peu le club. T'as suivi la saison dernière d'Angers?
Ouais, bien sûr. Bah déjà, j'ai échangé avec David au téléphone quasiment toutes les semaines pour avoir des retours, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien dans le milieu. Et puis, je suis venu voir pas mal de matchs aussi. Donc voilà. Et puis, j'ai déjà joué contre Angers aussi en tant que joueuse. Donc, je connais bien Jean Bouin et l'environnement du club.
Est-ce que le fait d'avoir un effectif qui a été déjà défini à ton arrivée, des recrues que t'as pas forcément choisi, est-ce que ça rajoute une difficulté à ton job?
Bah c'est toujours pareil en fait, quand on prend le projet, on connaît les tenants et les aboutissants, donc je connaissais les tenants avant de prendre le projet, donc non, on peut pas se plaindre après de l'effectif. Dans ce cas-là, il ne faut pas accepter le projet au départ, donc non, c'est pas un problème. Je l'ai déjà vécu à Nantes, donc non. Et puis je connaissais quand même beaucoup des joueuses. Il a fallu échanger beaucoup avec Maxime sur d'autres, mais non, c'est une question d'adaptation. De toute façon, notre métier, c'est de l'adaptation au quotidien, donc c'est pas gênant pour moi.
Et du coup, pour revenir au terrain, quelles sont les ambitions du club pour notamment ce retour en Europe?
Bon, les ambitions, c'est très tôt, hein. On est encore qu'au début de la prépa avec pas mal de joueuses avec des pépins, mais ça, c'est, j'ai plutôt envie de dire, il faut en parler au président plutôt qu'à moi, mais nous, c'est jouer match après match et gagner le plus de matchs possible et on verra à la fin où on se situe. On sait qu'on est dans un championnat de France très dense où c'est très difficile tous les week-ends. On n'a pas de marge sur les autres équipes. On n'a pas non plus à leur envier des choses. On a un style de jeu différent, mais c'est vrai que l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe pourrait compliquer les choses, parce qu'on s'entraîne moins, parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a moins de récup, parce qu'on n'a pas non plus un effectif pléthorique, mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est aussi une vitrine de la Coupe d'Europe et voilà, on va jouer tous les matchs et puis on comptera à la fin.
Quels sont les changements que t'as pu apporter tactiquement et dans le groupe depuis que tu es arrivé?
Bah ça, c'est pareil, c'est plutôt le genre de question qu'il faut poser aux joueuses. On a certainement beaucoup de choses similaires avec David, que ce soit dans la façon d'être ou dans le travail. On a certainement des choses différentes aussi, parce qu'on n'a pas exactement la même personnalité, mais ça, c'est pas trop moi qui peux y répondre, c'est plutôt mon assistant ou les joueuses. Après, dans le jeu, bien sûr qu'on a gardé des choses qui fonctionnaient. On a aussi amené notre touche différente avec Maxime, mais on s'adapte aux qualités des joueuses qu'on a, donc je pense que n'importe quel coach utiliserait Alexis Peterson de la même manière, qu'il s'appelle Aurélie Bonan ou un autre.
Par rapport à, justement, je vais revenir sur la préparation, quels sont les objectifs et les axes de travail que vous avez, que vous comptez bosser justement sur la préparation?
Ah là, c'est pas 20 minutes d'interview qu'il faut, c'est dans l'idée, bah il y a beaucoup de choses. Là par exemple, on est beaucoup sur les collaborations des deux côtés du terrain, l'intensité qu'on va y mettre des deux côtés du terrain et la communication, c'est déjà des axes forts pour nous. Et après, ça se décline en plein de choses offensivement et défensivement où Maxime et moi on a fait un point de tout ce qu'on souhaite mettre en place, mais déjà être capable de faire des choses simples mais les faire bien et voilà, qu'elles soient abouties et qu'on ait une constante par rapport à ça. Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, il y a des week-ends où on sera capable de mettre 80 points, il y a des week-ends où non, parce qu'on mettra pas dedans, donc il faut être capable d'avoir une assise défensive. Ça se travaille, et physiquement, et techniquement, et tactiquement, et il faut avoir envie d'aimer défendre, donc ce qu'on essaie de... On s'attache à mettre en place avec Maxime, et voilà, c'est... Encore une fois, ça va jamais assez vite pour des coachs, mais voilà, on est attaché à ça, en tout cas.
Et du coup, par rapport à cette question un peu tactique, comment tu définirais ton style de basket en tant que coach? C'est quoi le style de jeu que tu as envie que tes joueuses mettent en application sur le terrain?
Bah, c'est ce que je te disais, défendre fort et se projeter vers l'avant, hein. Aujourd'hui, le basket s'est accéléré, c'est un jeu beaucoup plus rapide, le basket féminin, et c'est intensifié dans la densité physique notamment, et voilà, il faut qu'on soit capable de défendre, de courir pour se créer des situations plus simples. On a plutôt des joueuses très adroites sur tous les postes de jeu qui sont capables d'être agressives. On n'est pas forcément une équipe à jouer demi-terrain, parce qu'on n'a pas de joueuses intérieures vraiment qui affectionnent de jouer dos au panier, même dans notre globalité. Donc on va être plutôt sur un jeu en mouvement, voilà, autour du jeu d'écran ou de porteur de balle ou de pique.
Depuis que t'as repris l'équipe, quels sont selon toi les points forts de l'effectif? Est-ce qu'il y a des joueuses qui ressortent un peu du lot ou c'est très collectif?
Non, pour l'instant, on peut pas parler de ça. De toute façon, on fait un sport collectif. Donc, bien sûr qu'il y aura des prestations individuelles qui seront importantes. On en est tous conscients. Il y aura des leaders. Il y aura des leaders de parole. Il y aura des leaders de scoring. Il y aura des leaders défensifs. il faut que les choses se mettent en place tranquillement. Ça, c'est pas forcément moi qui vais l'imposer, c'est plus elle entre elles où ça va se mettre en place au fur et à mesure. Et encore une fois, le fait qu'il y ait des joueuses blessées, la préparation est forcément perturbée. Donc voilà, il faudra attendre que tout le monde soit revenu pour vraiment avoir une idée précise du rôle de chacune. Mais nous, voilà, on essaie déjà de les laisser s'exprimer énormément pour qu'elles puissent trouver leur place. Et nous, après, on débriefera avec elles individuellement aussi sur nos attentes. Mais il est encore un peu tôt pour asseoir des choses sur ce qu'on souhaite avec Maxime.
J'aimerais qu'on revienne un peu sur ta transition de joueuse à coach. Comment s'est faite justement cette transition? Est-ce que c'était quelque chose que déjà tu envisageais en tant que joueuse, peut-être sur la fin de ta carrière professionnelle?
Ouais, je pense que c'est comme beaucoup d'anciens joueurs et joueuses, cette envie cette passion, cette envie de transmettre. On est passionné par notre sport. Voilà, comme on le dit souvent, on sait très bien qu'on est jugé que sur victoire, défaite, mais notre métier il se résume pas à ça. Il se résume à une aventure humaine, à beaucoup de management, à beaucoup d'échanges, à beaucoup de préparation, à beaucoup d'adaptation. Parce qu'on se compte, entre ce qu'on a prévu il y a un mois et maintenant, les choses sont déjà très différentes. Donc voilà, c'est venu au fur et à mesure de ma carrière. J'ai toujours été une joueuse leader, donc j'ai toujours eu cette envie de transmettre. Voilà, ça peut avoir ses limites aussi parce que quand on est ancien joueur et joueuse, comme je dis souvent à Maxime, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Donc il faut aussi nous s'adapter, enfin moi en tout cas m'adapter par rapport à ça. Mais voilà, c'est simplement la passion du basket et ne pas résumer mon métier à simplement la victoire des faits du week-end. La performance, c'est bien autre chose quand on les voit évoluer au quotidien, quand on arrive à faire avancer des joueuses individuellement et bien entendu collectivement. Donc voilà, notre métier c'est très complexe et on trouve du plaisir dans les semaines, dans ce que les joueuses peuvent proposer quand on les voit avancer.
Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à l'Entrezé? Il y a eu cette première expérience en tant que coach principal. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
Dans tous les cas, de toute façon, comme je dis toujours, on apprend. Il y a eu de très bons moments comme il y a eu de très mauvais moments. Mais comme je dis souvent, j'ai énormément travaillé. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Comme je le dis souvent, je suis très exigeante avec les autres, mais je suis avant tout très exigeante avec moi-même. Donc voilà, ça s'est très bien fini la première fois. Pas tellement bien en termes de résultats la deuxième, c'est certain. Maintenant, voilà, ça fait partie de notre métier. On s'adapte aux moyens des clubs, on s'adapte aux effectifs qu'on a, on s'adapte à nous, nos qualités et nos défauts aussi. Donc on prend notre part de responsabilité forcément quand ça fonctionne pas, mais on peut pas non plus se remettre en question entièrement quand on sait qu'on a bossé. Donc je sais que j'ai bossé à Nantes, ça a pas payé, ça a pas forcément matché. Ça s'est joué à pas grand chose. Il y a eu aussi un changement de règlement qui nous a pas forcément aidé, mais bon, il faut pas se trouver d'excuses. On a failli et voilà. Maintenant, je suis dans un autre projet, c'est autre chose avec un autre duo, d'autres joueuses. Donc voilà, chaque expérience est différente. Bien sûr, il y a des erreurs qu'on veut pas refaire, mais encore une fois, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes joueuses, donc c'est toujours difficile de comparer.
Et tu es également donc assistante pour l'équipe des Pays-Bas. Comment ce projet s'est présenté à toi?
Bah simplement la coach de Basketland Julie Barren qui m'a proposé de la rejoindre dans ce projet là donc j'ai tout de suite dit oui hein. C'est encore une autre approche, on découvre autre chose, une autre culture, des moyens différents, des joueuses différentes, donc voilà, donc c'est aussi une super expérience humaine. J'ai eu la chance d'avoir des U20 cet été pour faire un championnat d'Europe, donc non c'est encore autre chose, c'est découvrir plein de choses de notre métier qui sont différentes, travailler différemment, travailler avec des gens différents. L'envie aussi de voilà d'échanger avec des gens qui travaillent pas de la même manière que nous, apprendre, proposer aussi ce que nous on peut mettre en place en France. Donc voilà, c'est le partage dans notre métier qu'on peut avoir tout simplement.
Et du coup, donc tu le disais, il y a Julie Barren, tu as joué avec elle, c'est ça?
Ouais.
Et donc justement, elle a joué à Angers. Est-ce qu'elle t'a un peu parlé du club, de la ville avant que tu viennes?
Ouais, bien sûr. Bah de toute façon, avant de prendre ma décision, j'ai demandé à Julie ce qu'elle en pensait, donc elle a plutôt été très bienveillante avec le club et voilà, et comme elle m'a dit t'es faite pour ce métier, chaque histoire est différente, chaque année est différente. Elle dit aucun de nous les coachs on a de garantie dans ce milieu, on sait comment c'est, donc elle me dit voilà, vis cette aventure et pour rien regretter, tu regretterais de pas le faire, donc voilà, tout simplement elle m'a dit de foncer et de vivre cette aventure.
Par rapport à la saison qui arrive, on va revenir sur l'UFAB. L'Europe, c'est quelque chose d'assez incroyable pour un club comme ça. Comment toi, tu vas aborder le fait d'avoir plus de matchs? On a déjà un peu parlé avant, mais comment vous allez gérer tout ça?
Bah, déjà, quand on est joueuse de basket, on préfère jouer que s'entraîner. Donc déjà, je pense que c'est un premier point. Je pense que les joueuses, elles préfèrent jouer la Coupe d'Europe. Après, nous, ça va être plutôt en termes de récupération. Capacité de s'entraîner entre les matchs. Il y a peut-être des joueuses qui vont avoir du mal avec l'enchaînement, donc ça va être à nous à gérer au quotidien, parce que des fois on va rentrer déplacement, il va y avoir beaucoup de fatigue. Hein, c'est pas pareil que l'année dernière où ils préparaient un match par semaine, où il y a toute la semaine pour gérer ça. Et puis bon, ben nous on va avoir des temps d'entraînement très courts pour basculer sur le match suivant. Donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment dans notre préparation, même si aujourd'hui avec Max, je pense que sur le niveau basket, on estime qu'on est en retard, mais balayer le plus de choses possible pour pouvoir pallier à ces situations et avoir des réponses à donner aux joueuses en des laps de temps courts pour préparer les matchs.
Il y a notamment des déplacements en Croatie et j'ai oublié le...
République tchèque.
C'est des longs déplacements qui vont être aussi compliqués dans la récupération pour les joueuses.
Ouais, c'est sûr. Alors après, on a de la chance, nous, d'avoir un médical qui sera toujours avec nous en déplacement, donc ne serait-ce que pour la récup, ou après les voyages, mais c'est vrai que c'est pas facile, mais on n'est pas les seuls. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, encore une fois, la Coupe d'Europe, c'est une vitrine pour un club. C'est important et voilà, on fera pas de choix. On jouera tous les matchs. Maintenant, si on a des pépins à un moment donné, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra en faire. Mais c'est pas en tout cas notre idée pour l'instant, pour le moment, avec Maxime.
Sur l'effectif, on sait que les jeunes, c'est important. Ici à l'UFAB, elles ont fait de très bons résultats, notamment l'année dernière. Comment tu vois ça? Est-ce que tu intègres des jeunes? Est-ce que tu as, c'est peut-être un projet pour plus tard de les intégrer au fil du temps, ou tu gardes un œil peut-être là-dessus?
Oh bah c'est plus que les intégrer, puisqu'aujourd'hui il y a 5, en tout cas 4 jeunes plus une, pour qui pour l'instant de toute façon n'est qu'avec nous, qui sont avec nous quasiment tous les jours aux entraînements, qui vont jouer dès qu'elles le peuvent le week-end. Mais bon, comme je disais, là on pianote, parce que comme on a aussi des petits soucis, voilà, on essaye de faire les choses intelligemment avec le centre de formation. Mais non, on a déjà des jeunes qui sont avec nous depuis le début de la préparation tous les jours, qui seront d'ailleurs sollicités sur les matchs amicaux notamment. Donc voilà, elles de montrer de quoi elles sont capables, de mettre à profit le travail qu'elles peuvent faire la semaine avec nous, avec le centre de formation. Et voilà, donc non, on est allé voir avec Maxime les nationales de jouer samedi soir, donc non, bien sûr que ça nous intéresse. On pourra pas le faire tout le temps, parce que notre rythme va aussi s'accélérer forcément, mais dans la mesure du possible, on essaye d'aller voir, et on a des retours hebdomadaires avec les personnes qui sont sur le centre de formation, tout le staff du centre de formation, où on échange quasi quotidiennement par rapport aux jeunes.
Et du coup, dernière question, tu en as déjà un peu parlé, mais comment tu sens ton équipe à l'heure actuelle par rapport à la prise au chemin qui est prévue, je crois, pour octobre,
c'est ça? Ouais, fin octobre. Bah, je trouve que bon, il y avait beaucoup d'anciennes, donc c'est quand même plus simple dans l'intégration des nouvelles, mais je pense qu'on a l'impression que pour l'instant ça vit bien. Après, comme je leur dis souvent, c'est pas quand c'est facile qu'il faut que ça aille bien, c'est quand ce sera difficile. Donc, pour l'instant, je pense que c'est toujours difficile de savoir exactement comment ça va se passer. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on ait cette intensité des deux côtés du terrain, qu'on soit des guerrières. C'est toujours plus simple de perdre quand on se bat que quand on lâche. Pour moi, le sportif de haut niveau doit être quelqu'un qui doit être un exemple pour les gens qui viennent et pour les jeunes. Donc voilà, le message, il est clair. C'est dans les valeurs de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre en place. Maintenant, je peux pas anticiper de savoir comment mon groupe réagira dans la défaite, quand la défaite sera là. Il faut pas oublier qu'on a un début de championnat très dense. Donc c'est plutôt là où il faudra voir comment le groupe va réagir à tout ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le message passe plutôt bien. Je pense que forcément, pour beaucoup de joueuses, le changement de coach en plein milieu, c'est pas simple. C'est pas ce pour quoi elles avaient signé, mais bon, j'ai pas l'impression qu'elles soient traumatisées pour le moment, en tous les cas.
Tout se passe bien.
Pour le moment, ça va. Les feux sont au vert.
En tout cas, merci.
Je t'en prie. Pour
donc voilà, l'interview d'Aurélie Bonan, réalisée donc hier du côté de la salle Jean-Bouin. Donc voilà, là où elle travaillait avec Maxime Tsebron, son assistant. Cédric, qu'est-ce que tu as pensé de cette interview?
Bah, écoute, il y a des choses intéressantes qui en sortent. Notamment, c'est qu'il y a quand même une volonté de faire du jeu. Ouais. Voilà, d'aller chercher les points, de pas forcément jouer que de la défense. Voilà, elle est consciente que, enfin, voilà, quand elle dit que voilà, on fera pas tous les week-ends plus de 80 points, mais que c'est sûr, il va y avoir des matchs où ça va le faire, comme ça. Je pense que voilà, il y a quand même une promesse de jeu, en tout cas, quand on sort de cette interview-là.
Mais aussi d'être solide défensivement.
C'est ça, voilà. Donc, pareil, on sent qu'il y a peut-être une volonté de combler certaines lacunes qu'il y a peut-être eu la saison dernière. C'est vrai que on constatait que des fois, quand il y avait de l'engagement, le répondant n'était pas forcément là. Donc, c'est vrai qu'il y a sûrement un travail à faire en plus. Et on sent, oui, qu'il va avoir une nouvelle patte, je pense, quand même.
Ouais, moi,
pour l'instant, bon, on n'a vu aucun match. Mais je pense que voilà, il y aura sûrement une nouvelle façon de jouer avec une nouvelle patte. Et puis, on va voir ce que ça va donner en début de saison, quoi.
Ouais, parce que ça va être une toute nouvelle saison. Avec donc l'Europe, ça va être vraiment un enjeu par rapport à ça de pas se cramer rapidement, de garder des forces pour le championnat. Et donc voilà, je pense qu'elle a un peu tout dit là-dessus.
De toute façon, donc, on verra quand on va recevoir des joueuses.
Oui, leur ressenti par rapport à ça.
Voilà, je pense qu'on va recevoir des joueuses qui étaient déjà là l'année dernière. On prend leur poser justement la question. Par rapport à cette nouvelle saison, comment elles l'abordent, si justement c'est pas la saison la plus dure qu'elles vont jouer suite à la belle saison de cette année.
Donc on verra ça évidemment. On n'a pas la possibilité de savoir ce qui se passe du côté de la Roche-sur-Yon. Donc on verra, on en parlera sûrement la semaine prochaine. Sinon, par rapport à ça, effectivement, la préparation continue pour l'UFAB et le retour en championnat se profile donc dans les prochaines semaines. Évidemment, le mondial de basket du côté de Sydney, évidemment, ça ralentit un petit peu les choses, ce qui est évidemment logique.
Bon, ce qui est bien, c'est que ça va pas impacter tant que ça en fait toutes les équipes au démarrage du championnat. Là, il reste semaine à peu près de.
Je crois vraiment que l'UFAB n'a aucune internationale qui a participé. Il y a juste Jody Corneli qui a participé au championnat d'Europe 3x3. Elles ont terminé deuxième, je crois. Mais en tout cas, voilà, c'est la seule véritable joueuse qui a pu.
Mais même voilà, pour l'ensemble du championnat, tu vois, ça va être quand même intéressant.
Ouais.
Il y aura sûrement des joueuses qui seront fatiguées, mais moins qu'on pourrait voir des fois dans certaines compétitions avec les dates où ça se déroule. Quoi. Donc,
peut-être on peut donner les premières dates. Premier match de la saison, ça va être un gros rendez-vous contre l'AT Montpellier. Donc ce sera le 29 octobre, donc à Jambouin. Là, on parle vraiment des premiers matchs à Jambouin. Et puis le premier match européen, ce sera contre les Tchèques de Brno. Par rapport à ça, ce sera le premier match. Et puis sinon, il y a Ragusa le 14 décembre, donc les Croates. Et puis Flamme Carolo. Alors c'est vraiment aussi un avantage, c'est le tirage au sort était plutôt clément par rapport au déplacement, dans le sens où voilà, il y a notamment un club français.
Oui,
c'est plutôt cool par rapport à ça.
Ça fait un déplacement, on va dire.
Oui, qui est en
de
moins
de
relou. Voilà.
Voilà,
on
sait que là, on peut peut-être partir une journée avant, tandis que pour les autres, il faudra peut-être partir deux jours avant.
Voilà. Donc, de toute façon, voilà, on suivra, vous le savez très bien, la saison de l'UFAB qui renouvelle tout au long de l'année. Il reste 2 minutes. Cédric, petit mot sur Federer. Il a fait ses adieux donc ce week-end. Quel moment d'émotion avec notamment Nadal.
Ouais, un beau match quand même, malgré une défaite. Son dernier match, ça sera une défaite.
C'est assez triste, mais c'est son compétition.
Mais mondiale, c'est vrai que voilà, ça s'est fini au super tie-break. Mais on voyait dès l'entrée des joueurs. Il y avait de l'envie, il y avait du plaisir.
Ouais, ils ont pas pris le.
Ils ont pas. Voilà, ils l'ont joué.
C'était vraiment. Mais malheureusement.
C'est plus l'aftermatch, effectivement, qui est touchant.
Qui était chargé en émotion.
Parce que quand on voit la rivalité Nadal-Federer qui a eu pendant des années.
Bien sûr.
Et qu'un Nadal craque complètement après le match, qu'un Djoko, pareil, qui a été pendant des années impassible, tout ça, enfin, craque. Ouais. Non, c'est vrai que c'était très émouvant.
Donc voilà, effectivement, les adieux de Roger Federer. Et la Lever Cup, je crois que c'est le reste du monde qui l'a gagné, je crois.
Je sais pas du coup.
Personne l'a suivi après. Hein.
C'est un peu dommage.
En plus, c'était le dernier match de Federer et Nadal aussi a déclaré forfait. Donc voilà par rapport au tennis. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. même, j'ai envie de dire, même jour, même rumeur, même antenne, même, voilà, même site, www.radio-g.fr. On vous laisse avec la rediffusion des Plantes Vagabondes et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Et à tous sur les ondes de